Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le jeudi 26 février 2026 et vous écoutez le débrief du deuxième jour du Festival International des Jeux de Cannes réalisé par Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Ben OFX et pour ce deuxième jour, déjà bonjour à toutes et à tous, c'était pas là hier, hein. Et pour ce deuxième jour, on a la team au grand complet puisque je suis accompagné. Ils ont fait, alors on est plus nombreux mais ils ont fait moins de bruit qu'hier, j'ai l'impression.
Alors grand complet de ceux qu'on peut venir.
Grand complet de ceux qui sont à Cannes.
Voilà.
De ceux qui sont à Cannes actuellement. Pas toute la proxy team au grand complet, mais la proxy team présente à Cannes. Du coup, ce soir, je suis accompagné de Lana. Salut Lana.
Salut.
Il y a aussi Elodie. Salut Elodie.
Salut tout le monde.
Caducé.
Salut.
On est aussi avec Kurt.
Salut tout le monde.
Peter.
Salut, salut.
On a Drew.
Bonjour tout le monde.
Et enfin, on a Cyrus.
Ah, il se souvenait plus de mon nom.
Ouais, non, j'ai dû réfléchir un petit peu.
Ah là, c'était vrai en plus.
Mais non, salut, c'était pour maintenir le suspense, voyons. Et donc, cette journée de jeudi, c'était aussi la première journée avec des interviews. Deux teams aujourd'hui qui ont réalisé des interviews. Ce matin, c'était Caducé et Elodie. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement qui vous avez interviewé aujourd'hui ?
Alors, ce matin, on a commencé par recevoir Roberto Fraga. On a ensuite interviewé Pauline Détra. Et on a fini par un duo avec Erwin et Elodie Clément.
Très bien, et cet après-midi, on avait le duo Cyrus et Peter, avec trois interviews également, qui étaient...
Tout à fait, on avait Jonathan Rodriguez en premier, de sa société Rodriguez Games. Voilà.
Quel jeu de mots.
On avait les jeux au plat avec Florent Toscano.
Et il paraît même que c'était Florent Tarscano.
J'avoue, il est un peu arrivé en retard. Ça nous a pas mis très bien, là, il est un peu tard là déjà pour l'enregistrement du podcast, ça nous a tout décalé. Et ensuite, on a reçu Kiwizu, donc David et Nathalie, qui ont monté une nouvelle boîte d'édition de jeux pour enfants qui s'appelle Kiwizu.
Alors, sinon, à part les interviews, si vous avez pu vous balader un petit peu sur le festival aujourd'hui, quelles sont les impressions de cette deuxième journée, cette première journée d'ouverture officielle du festival, hein, puisque hier, c'était un petit peu particulier, comme on l'a dit dans le débrief.
Ah ben, il y a plus de monde, hein, mais on croise du monde. Non, on arrive encore à s'asseoir, on voit que tout le public n'est pas là, c'est encore assez clairsemé. On n'a pas été dans les salons pro, on est resté vraiment dans les zones publiques et effectivement les jeux les plus attendus, il faut attendre un peu, il faut faire la queue, mais ça reste vivable comparé à ce que je pense qu'on aura bientôt dans les jours qui viennent. Et surtout on a un petit redit de gag un peu fortuit, je sais pas, mais depuis le premier jour où on est arrivé, on n'arrête pas de croiser Bruno Feiduti.
Ah.
Je crois que il se passe pas une demi-heure sans que l'un de nous croise Bruno Feiduti. Alors, on a un petit jeu, c'est avez-vous vu Bruno? Voilà.
C'est où est Bruno?
Voilà. Donc, on verra si ça se vérifie dans les jours à venir, mais cette année, alors que c'est quelqu'un de très discret d'habitude, on le voit peu, mais là, on n'arrive pas de tomber sur lui dans le salon.
Moi, je l'ai vu hier, alors qui l'a vu aujourd'hui?
Oui.
Ah, aussi.
Oui, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 à lever la main, ouais.
Qui l'a vu plusieurs fois aujourd'hui?
Oui.
Ah, les mêmes ont relevé la main plusieurs fois.
Donc, tu le croises tout le temps, soit tu le vois pas du tout, a priori. Il n'y a pas de juste milieu.
Moi, personnellement, quand je passe 2 heures sans le voir, j'en viens à m'inquiéter, savoir s'il va bien, vraiment. Hein.
Caducé, toi, tu voulais nous parler d'un golem.
Oui, d'un pauvre petit golem, enfin, d'un pauvre grand golem. C'est le golem de Tag Team, qui fait partie des personnages jouables dans le jeu Tag Team. En fait, il y a un monsieur qui se balade dans le costume du golem, qui est très grand et surtout très large. Il prend quasiment la largeur d'une allée. Oui, et on voit qu'il a beaucoup de mal à se déplacer. Il y a d'ailleurs toujours quelqu'un à côté, je pense, au cas où, pour parer le risque de chute.
Je pense pour l'aider à se relever, surtout.
Mais c'est ça, au cas où, soit l'éviter de chuter, soit l'aider à se relever, parce que le pauvre, une fois par terre, c'est impossible pour lui. Donc voilà, il y a une petite pensée, encouragez-le, soutenez-le, quand vous le croiserez dans les allées, ce pauvre golem de Tag Team.
Ben non, justement, si vous voyez dans une allée, vous engagez pas dans cette allée, laissez-le circuler, le pauvre.
Ouais, le pauvre golem. Y a quelqu'un qui voulait parler aussi des jeux de rôle cette année.
Quel jeu de rôle?
Je sais pas. Des JDR, moins de JDR cette année. C'est qui a marqué ça, je sais pas.
Bah, en fait, c'est un peu un constat et on leur a un peu pris la place parce que nous, on a dit on est dans la retour dans le deuxième et jusqu'à l'année dernière, c'était en gros les jeux de l'imaginaire, les mondes de l'imaginaire et c'était tout ce qui était jeu de rôle un peu fantastique, jeu de figurines. Et là, cette année, bah, c'est plus du jeu tout public. On trouve Radio France aussi, on a pas mal de TCG ici. Et les JDR, bah, ils ont été relégués au sous-sol et dans une toute petite partie, on voit que bah, le salon est... perd un peu cette possibilité de jouer au JDR. Même il y avait des associations locales, là, j'en ai vu beaucoup moins aussi, donc ça diminue. Je ne sais pas si le Graal font toujours leur prix ici, mais bon.
Moi, j'ai si vu le Graal, ils sont encore présents, ils sont en bas.
Ouais.
Mais j'ai vu quelques tables de JDR en bas. Ouais. Oui, oui. Il y a pas mal d'éditeurs. Il y a d'abord une sorte de tribune, en fait. Il y a plusieurs éditeurs de jeux de rôle qui se sont mobilisés en disant bah, « Nous, on ne peut plus venir, les tables sont trop chères. » Et avec vraiment cette impression qu'ils sont gentiment poussés dehors. Gentiment étant avec plein de guillemets, évidemment. Et c'est triste. Parce que alors c'est sûr que c'est pas la partie la plus rentable du jeu de rôle, du jeu de société.
Et pas, mal, mais pas la plus clinquante.
C'est pas la plus clinquante, c'est le truc un peu bizarre, c'est ce qui reste encore pas mal geek. Mais c'est des tellement belles sensations quand on joue. C'est triste que ça soit comme ça, relégué, et que ça disparaisse, parce que c'est quand même historiquement aussi un sacré pan du jeu de société. Donjons et Dragons, 50 ans, enfin, ouais, c'est indéniable, quoi.
Ouais, mais c'est le business, madame, c'est le business. Ils savent pas faire de l'argent. S'ils se mettaient à faire de la divination chamanique, tout de suite, ça serait vachement plus...
Et ceux-là aussi ont été poussés dehors, et un peu moins gentiment, parce que pour le coup, oui, il y avait... un stand de tarot chamanique qui était prévu.
Mais c'était pas un jeu.
Et non, c'était pas un
c'était
jeu.
C'était des prestations payantes.
C'était ça, ils étaient un peu sous l'œil de l'ami Vilude.
Ouais.
Du coup, il y a eu des remontées aussi et ils n'ont pas de stand au final. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Mais avant même le début du FIGE, sur les réseaux sociaux, oui, au niveau des amateurs de JDR, Élodie parlait des professionnels du milieu, mais les amateurs, le public râlait que le JDR cette année n'était pas représenté ou quasiment plus représenté sur le FIGE, ce qui est dommage.
Alors on parlait du golem qui se trimbalait dans l'allée. On a Doodle qui est non Diddle pardon. On a Diddle qui arrive au stand. On vous mettra la photo. Il est passé nous faire un petit coucou. C'est sympa. Bon alors il y a Cyrus qui a couru vers la mascotte Diddle pour faire une photo. Pour sa fille, sa femme, je n'ai pas compris.
Pour sa femme. Pour lui.
Pour lui, ouais. Okay, oui, il nous dit que c'est pour sa femme.
Alors, l'excuse de dire ma femme. Hein
pour les plus férus de nos auditeurs, souvenez-vous des affaires des Furies, des scènes. Je dis ça, je dis rien.
Bon, après les mascottes et après voilà ce constat malheureux de la diminution de la présence du jeu de rôle, un sujet peut-être un peu plus léger. Drew, tu voulais nous parler de la mode des roues.
Oui, je vais vous parler de roues, dis donc, c'est dingue.
Alors, quelles roues? Bah, deux roues, les trois?
Alors, je ne sais pas si vous l'entendrez dans les interviews ou dans les débriefs, mais on est entouré de roues.
Oui.
Juste à notre droite, il y a une petite roue pour gagner des choses. Dans notre dos, il y a une petite roue pour gagner des choses. Et un peu plus loin, il y a une grande roue pour gagner des choses.
C'est la mode de la roue de la fortune.
Et ça fait clac, 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 clac.
Version.
Clac, 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 clac. Donc, il est possible que dans les interviews, vous entendez des petits clac, 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 clac.
Des petits cliquetis, ça provient des roues pour gagner des lots.
Mais peut-être que ça va diminuer parce que tout à l'heure, vous avez pété la grande roue. Il était en train de la réparer avec du scotch.
Il n'y a pas la meilleure roue cette année, parce que l'année dernière, non, il y avait Asmodée, où il est carrément des boîtes de jeu.
Ah si, il y en a une,
Flavien n'est pas là pour faire la tier list des roues comme ASN, donc on ne saura pas cette année à Cannes.
Non, mais la grande roue d'Asmodée, elle y est.
Ouais, mais c'est des, tu gagnes
c'est
pas.
C'est des plus petits lots, ouais.
Ouais, c'est des plus petits lots.
Ouais, il y a des trucs pas mal.
C'est ce qu'ils nous ont dit.
Ouais, il y a la queue aux roues.
En revanche, ils ont fait un truc, Asmodée, où cette année, c'est le passeport des TCG, là. Donc il faut aller te droguer à tous les TCG pour obtenir des boosters de TCG, donc une toute des doses pendant que tu joues. C'est
on sent le manque. On sent
que c'est un supplice pour toi.
On sent le manque.
On est allé du coup.
Voilà, j'ai été obligé de te traîner à la tente des TCG parce que ici il y a peut-être moins de jeux de rôle, il y a autant voire plus de TCG et pour tamponner deux jeux sur notre passeport, donc qui était Riftbound de League of Legends et la dernière extension de Star Wars Unlimited.
Voilà, donc je suis venu jouer ici à des jeux que j'avais déjà chez moi, enfin que j'allais bientôt avoir chez moi.
Sur notre stand, donc à la rotonde, nous laisserons la petite urne ouverte si vous voulez laisser votre passeport tamponné. Cyrus, ça fera
un très plaisir de récupérer les boosters.
Donc Asmodée a créé la 10e dose est gratuite, en fait, c'est ça.
Autre petite anecdote, a priori, Gigamic a trop de roll-up, non ?
Ouais, on est allé manger au sous-sol, au seul endroit où on peut voir un peu la lumière. Je sais pas si vous voyez hein, tout au bout, devant Gigamic. On se pose à une table et là, un gars était chargé de roll-up plein les mains. Il en fait tomber un. Drew lui ramasse gentiment et le mec, il le prend pas, il se barre. Il le laisse et on voit qu'il en donne aussi à d'autres personnes. Bon, c'était compliqué de s'en redébarrasser. Je pense qu'il y a un jeu de se passer les
roll-up. Ah, il y a peut-être un metagame qu'on ne connaît pas.
C'était marqué dessus, passe-passe.
Ouais, passez le roll-up. Moi, de mon côté, je voulais vous expliquer pourquoi je n'étais pas là hier soir. Parce que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un drame au Festival de Cannes. Un drame, franchement, je m'en suis toujours pas remis. Le Manolans avait brûlé. Alors le Manolans, pour ceux qui ne suivent pas, c'est le pub irlandais qui est pas trop loin là, du Palais des Festivals où certains d'entre nous, surtout moi... passons la plupart de notre temps en dehors du salon.
C'est ton bureau.
C'est un peu mon deuxième bureau, ouais. Le Manolan, tel un phénix, a ressuscité après l'incendie. Et voilà, du coup, hier soir, il fallait absolument... C'était un peu comme les TCG pour Cyrus, il me fallait ma dose de Manolan. Et du coup, voilà, j'ai filé là-bas, j'ai passé la soirée là-bas, donc je n'ai pas joué à grand-chose de toute façon hier, donc je n'étais pas là au débrief.
T'es pas allé à la soirée d'ouverture?
Bah non, mais justement, Drew et Lana, vous qui étiez, comment c'était? Est-ce qu'il y avait assez de chips cette année?
Ah là là, on avait mis les smokings, la grande robe et tout, il y avait des paillettes, du champagne et tout, mais pas du tout en fait, pas du tout. En fait, ça se passe dans le grand tent du off, on entre, ils nous offrent un petit verre de cocktail, on va servir en paquet de chips, et puis voilà, il y a du monde et c'est la cohue comme dans les tentes du off, et en plus, il n'y a même pas de paquet de chips pour tout le monde, hein, si on arrive dans les derniers, voilà, donc... Alors, on croyait que ça allait être un petit peu voilà, une cérémonie d'ouverture, entre guillemets, avec un petit mot, un petit discours. Mais non, en fait, c'est juste aller
boire
un
pot,
coup, prenez des chips et puis voilà. Puis, en fait, les auteurs avaient commencé à mettre leur proto et c'était déjà le off qui avait commencé off, ouais, à cette heure-là avec la boisson gratuite.
C'est l'ouverture du off. Quoi.
Mais je crois que la vraie cérémonie, c'est ce soir. Hein.
C'est ça. Ce soir, la cérémonie des As d'Or. Et ouais, sur la cérémonie du off, ils avaient pris, l'année dernière, ils avaient littéralement deux palettes de chips et ils ont distribué à tout le monde à la fin de la soirée parce qu'il y en avait trop. Je pense que les mecs ont dit, il y en avait trop et ils ont juste drastiquement diminué, mais trop diminué par rapport au nombre de personnes qui étaient présentes.
Et ce qu'on peut noter, par contre, par ce qu'on a été voir, c'est que maintenant, le off a deux tentes. Donc, alors, ça doit pas être doublé par rapport à l'année d'avant, parce que la tente a l'air un peu plus petite, mais au global, ça doit être plus grand que l'année dernière, en tout cas. Et le fait d'avoir ça en deux, peut-être que ça va réduire un peu le bruit.
Le bruit,
C'est quand même un peu la cacophonie là-dedans.
Ouais, c'est ce qu'on m'a dit pour des gens qui étaient au off hier soir, que c'était quand même globalement plus calme, même si c'était la première journée et que globalement, c'est souvent la plus calme. C'était un petit peu mieux de séparer et puis, ça a forcé les gens un peu à bouger, à sortir. Il y a un peu d'animation devant aussi. Je vous propose qu'on passe au jeu. Lana, toi, tu veux nous parler de Locus.
Oui, je suis allée jouer à Locus, un jeu de coche avec des cartes, pas avec des dés. Donc, on va appeler ça un retourné gribouille.
C'est joli, retourné gribouille.
Expression prise chez Caducée. C'est un jeu qui va se jouer en plusieurs manches. Ça va dépendre du nombre de joueurs. On va choisir une carte qui représente un polyomino. On l'a choisi pour soi et on va la placer dans sa grille. Enfin, je dis sa grille, mais il n'y a pas qu'une seule grille. En fait, il y en a cinq avec cinq couleurs différentes. Vous voyez très futé, ça lui ressemble quand même beaucoup parce que chaque couleur va scorer différemment et on va même compter deux fois sa zone la plus faible. On trouve des grosses similitudes. Donc, en fait, on va chercher à équilibrer un petit peu toutes nos zones. Comme dans Très Futé également, on va gagner des bonus qu'on va cumuler et on pourra les déclencher un petit peu plus tard. Ça va nous aider, ça va assouplir un petit peu les règles. Et puis surtout, et c'est là tout le sel du jeu, dans les différentes zones, on peut gagner des bonus qui nous permettent immédiatement d'aller cocher des cases dans une autre zone. Donc on passe dans un mode arcade, on va comboter, on va rebondir de zone en zone, on va déclencher des effets. Et ça, c'est vraiment grisant. Tout à fait ma cam en fait. Un jeu dynamique, il y a de l'opportunisme hein, sur le choix des polyomino. Quand on est premier joueur ou dernier, on n'a pas tout à fait le même choix. On a des petits jokers et on a des combos. Moi, je recommande.
c'est tout pour Locus. D'autres personnes y ont joué à Locus ?
Alors moi, je l'ai trouvé super chouette. J'ai peut-être un tout petit regret, c'est qu'on joue chacun avec sa carte. Alors quand je dis sa carte, c'est une carte avec un symbole. Alors qu'on aurait pu très bien tous jouer avec la même et voir ce que ça donne, comme dans Alice de l'autre côté du miroir, par exemple.
Pour moi, ça fait vraiment partie du jeu. T'as le côté opportunisme où, bah tiens, celui-là m'intéresse, l'autre aussi, mais si ça peut embêter mon copain, je vais prendre. Et puis le petit symbole qui est sur cette carte plutôt que sur celle-là, il m'intéresse beaucoup.
Ouais, non, mais effectivement.
Locus, c'est un jeu donc qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes à partir de 8 ans, qui a été réalisé par Stan Van Rooyen.
Merci Lana. On va passer à Drew, qui va nous parler de Gévaudan. Ça fait un peu peur ça, Gévaudan.
Oui, il y a des bêtes qui rôdent. Effectivement, c'est Gévaudan sur les traces de la bête. Donc vous allez me dire, mais un jeu où on chasse une bête du Gévaudan, on a déjà vu ça il y a pas très longtemps. Effectivement, c'est un thème quand même assez récurrent qu'on retrouve régulièrement dans les jeux de société, mais là c'est un jeu, à la différence de celui dont je vous parlais à un instant, qui est un pour tous. Ce n'est pas quelqu'un qui incarne la bête et tous les autres qui vont le traquer. On est chacun et chacune un chasseur qui va traquer une bête qui se dépasse sur le plateau. Et on ne va pas traquer la bête, puisqu'elle est matérialisée par un pion, on sait où elle est. On va chercher sa tanière, qui, elle, est cachée. Donc on a un plateau de jeu divisé en différentes zones, et chaque zone va avoir un petit bout de particularité. C'est-à-dire que cette zone-là, elle a un peu de forêt et une rivière. Puis l'autre zone-là, ben, c'est la forêt et de la ville. Et l'autre zone, c'est la rivière et la ville. Vous commencez à comprendre, chaque zone a des particularités qui font qu'elle est propre. Et donc dans le jeu, le but va être de se balader pour aller visualiser des petits jetons qui ont été répartis sur la carte, qui vont nous dire la tanière de la bête est plutôt dans la ville, plutôt pas dans la ville. Et en fait, il y a 5 jetons de chaque caractéristique. Et en gros, on va avoir 3 jetons qui vont me dire une info et 2 autres jetons qui vont me donner une info. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 3 jetons qui me disent pas dans la ville et 2 jetons qui me disent dans la ville. Donc là, je dois regarder la majorité. Donc la tanière n'est pas dans une case où il y a de la ville. Et en fait, comment ça marche ? Eh ben, il y a 3 jetons de chaque qui disent oui et qui disent non pour chaque caractéristique. Et au début du jeu, ben, on enlève de manière cachée un jeton de chaque catégorie. Ce qui fait que ça va créer cet aléatoire et que tout le monde va jouer. Il n'y a pas quelqu'un qui prépare le scénario. Et donc, on va jouer comme ça pour regarder les jetons. Il y a même moyen de faire un petit peu le coquin et d'aller prendre le jeton, le retirer de la carte et de le garder vers soi. Comme ça, les gens ne peuvent plus aller le voir. Il y a une action qui permet d'aller voir chez les copains. Hein. Enfin, sinon, ce serait un petit peu bloquant. Et on va comme ça se balader pour essayer de trouver la tanière. Quand on pense l'avoir trouvée, on y va, on dit c'est là la tanière. Si on a bon, on a gagné. Si on n'a pas bon, et ben voilà, on sort du jeu et les autres terminent et il faut trouver. On a en plus à partir de avec ça de moi des petits pouvoirs. On a des personnages qui ont des petites particularités. Moi j'avais un espèce de chasseur. Quand j'étais sur une case adjacente à la bête, je pouvais lui mettre un coup de fusil puis ça la ralentissait. Et parce que la bête, à la fin de chaque tour, enfin quand on a tous joué, elle va se déplacer avec un dé. Et si elle nous croise, ben elle nous croque. Donc en croquant, on perd une vie, et une vie, ben, c'est nos points d'action par tour. Donc plus on est faible, moins on jouera. Sachant que si on tombe à zéro, ben, on sort du jeu. Parce que la vie, c'est quand même aussi notre présence dans le jeu. Donc moi, j'ai bien aimé. Alors, j'ai pas fait la partie complète. J'ai eu un petit rendez-vous que je devais partir. Mais les quelques tours que j'ai fait m'ont bien plu. Je suis revenu pour voir la fin du jeu. Je vous sentais très absorbé. C'est vraiment un jeu. Alors, ça m'a fait penser un peu à un cryptide, mais un peu plus light. Parce qu'un cryptide, moi, je m'en souviens d'un truc qui fait vraiment bouillir le cerveau. Là, on a un aspect mémoire, mais on a quand même des cartes qui nous permettent de garder des indices pour nous. On a des choses, des mitigations. On va pouvoir gagner des cubes pour avoir des actions en plus. On va pouvoir recruter des persos. Voilà. Tout ça, je l'explique pas. On n'est pas là pour faire la règle, mais ça apporte des petites souplesses, des petites asymétries qui sont sympathiques et rendent le jeu peut-être un peu moins ardu, je dirais, qu'un cryptide.
Ouais, la déduction est importante, mais on va surtout courir après les informations dans un tempo très très serré. Puisque le jeu se déroule quand même très vite et la bête devient de plus en plus enragée, va de plus en plus vite et on perd des points d'action et on a besoin d'aller vite. Vraiment, il y a des cartes, ça s'enchaîne. La fin de partie déboule, il faut savoir où est la tanière et on peut même y aller presque au bluff en disant bah, j'espère que c'est là parce que je peux aller que jusque là et j'ai que ces indices là, tant pis, je me lance.
Au risque, en te trompant, de donner des infos aux suivants.
Absolument.
Et ça marche comment d'y aller au bluff, Lana ?
Ça marche pas toujours. Mais vraiment, la pression du tempo est très forte, presque plus que la déduction. Au départ, on se dit, bon, on a le temps, hein, d'aller chercher les infos, on court, celui qui les a, bon, faut que je le rattrape. Mais tout s'accélère. Et cette sensation, en fait, on n'a pas de track, mais cette sensation de tempo qui, lui, nous rattrape, va bien avec ce jeu.
Oui, on sait que la dernière carte, la carte qui déclenche la fin du jeu, est dans la fin du paquet. Il nous a dit, elle est dans les trois dernières. Pourtant, on voit clairement le paquet baisser. On sait qu'on tire une carte par tour. On voit qu'il n'y en a pas 50 au début. On sait que ça va faire une dizaine de tours. Mais ça arrive beaucoup plus vite qu'on le pense. Ouais. Beaucoup plus vite qu'on le pense. Et là, quand on sait, alors là, j'ai ces trois infos, il me manque celle-là. Qu'est-ce que je peux faire en deux tours pour trouver l'info qui me manque? Et aller à tel endroit, etc. Et bah, heureusement qu'il y a Lana qui se plante dans son bluff, qui m'a donné la bonne info qui manquait, sinon j'étais pas bon.
Et c'est là que j'ai compris que c'était pas un coopératif.
Ouais, parce que bon, on l'a pas dit, tu l'as dit à demi-mot, mais on a comme ça une carte événement qui est révélée à chaque fin de manche, une fois que chacun a joué, qui va donner un petit bonus, un petit twist. La bête va révéler ses traces ou des choses comme ça, voilà. Ou la bête tape double, ou la bête, voilà. Il y a comme ça aussi des choses qui vont rendre la partie.
Des fois, ça aide quand même les joueurs. Hein.
Ça, ouais, c'est plus pour aider quand même. Mais, voilà, donc, ce qui fait que il y a un petit peu de renouvellement entre les parties et selon les indices comme ils arrivent, ça a vraiment changé le déroulement. Donc, c'était Gévaudan sur les traces de la bête, un jeu de Aurélien Devaux, illustré par Philippe Pompas, et on le trouve aux éditions du Lion Vert et ça sort mi-mars.
Très bien, merci Drew. On passe à Elodie qui va nous parler d'un super jeu qui s'appelle Vroom.
Vroom, vroom. Alors, on allume les moteurs, on passe la première, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, et c'est parti. On va même jusqu'à la septième dans ce jeu-là. Donc, c'est un jeu d'Antonin Bocara qui nous a habitués à faire des jeux un petit peu particuliers, avec une vraie identité, des vraies choses qui détonnent. Et ça continue. Donc, c'est un jeu de course coopératif. Il va falloir estimer ses déplacements et les déplacements des autres, les déplacements de nos petites voitures en bois qui donnent tellement envie de jouer.
Qui roulent vraiment.
Qui roulent vraiment. Et il y a même le petit creux pour poser son doigt dessus. Ça, c'est hyper agréable. Donc, on va faire trois manches et 5 tours par manche. À chaque tour, chacun récupère une carte de valeur de 1 à 7, comme on a dit, et avance sa voiture d'une longueur estimée de cette valeur. Donc, si j'ai une valeur 1, je vais l'avancer peut-être pas beaucoup. Si j'ai valeur 7, je vais avancer beaucoup. Une manche, donc, c'est 5 cartes, et il faut qu'au moins une des voitures ait passé la ligne d'arrivée pour gagner la manche. Si personne ne passe, c'est perdu. Donc, parfois, il va falloir un peu pousser, aller mettre une 8e, pour être sûr de passer. Mais comment on va gagner? Et bien, à la fin de manche, on va faire la somme des 5 cartes qu'on a eues pendant le tour. Et les voitures doivent être classées selon cette somme. C'est-à-dire la somme la plus haute doit être la plus loin après la ligne d'arrivée. Et la somme la plus basse être la dernière. Et puis tout dans le même ordre, un peu dans l'idée des jetons de The Gang. J'espère que vous aurez compris, que je ne vous aurai pas perdu, parce que c'est vrai que l'explication de ce jeu n'est pas évidente. Donc la question qu'on se pose tout le temps, c'est est-ce que la poussée, là, on a ma coéquipière, elle a poussé de 4 cm, est-ce que c'est une puissance de 1, de 2, de 3, comment elle l'estime par rapport à la longueur à faire, est-ce qu'elle pousse un petit peu parce qu'elle a peur qu'on n'arrive pas à la ligne d'arrivée? Et moi, comment je me situe? Moi, je ne suis pas très bien spatialisée, les longueurs, les machins, je ne sais pas diviser une... Et c'est super difficile, je trouve, d'estimer. C'est difficile de se comprendre. Mais c'est hyper satisfaisant quand on y arrive. Ah, puis un truc, c'est qu'on ne peut pas dépasser la ligne d'arrivée avant la 5e carte. Donc, il y a des fois, on est blindé de grosses cartes. Mais il faut quand même se retenir un peu. Du coup, les autres ne comprennent pas forcément. Se disent, mais...
Et puis à la dernière, on dépasse la ligne de 3 km.
Et ensuite, on va jouer, donc je vous ai dit, 3 manches. Les autres manches, elles vont rajouter des contraintes qui compliquent l'affaire. Et en plus, on doit tout réapprendre. À un moment, il faut faire un aller-retour. Donc là, où vous étiez un petit peu calé sur tel déplacement, ça vaut 2. Bah là, c'est le double, quoi.
Ouais, ça perturbe vachement l'estimation, en fait. Parce qu'en ligne droite, on arrive à estimer à peu près où on en est. Dès qu'il commence à y avoir des virages, des obstacles, etc., ça devient...
Ah, c'est l'horreur. Puis l'arrêt au stand, ça c'est terrible parce qu'on va avoir un arrêt obligatoire à un moment dans sa manche. Qu'il va y avoir mettons que ton obstacle, enfin que ton stand, parce que c'est des objets
c'est
posés
des objets
sur.
Que tu rajoutes, donc ça fait des obstacles pour les autres en fait.
Ça fait stand, des obstacles, c'est le bazar, on sait pas dans quel sens. Enfin, des fois on se collisionne aussi, on se tape dedans, c'est assez drôle. Bah, j'ai trouvé cette proposition assez fraîche et nouvelle et hyper rafraîchissante. Alors comme tout bon coop, c'est dur. Vu que la communication est limitée, il n'y a pas d'effet leader. Mais ça n'empêchera pas les empoignades de fin de partie en disant « Ah oui, t'avais une petite carte, pourquoi t'as avancé de fou ?» Gna gna gna, gna gna gna, enfin vous voyez,
ça
hein,
vécu, ça
on
vécu,
s'engueule là. Jamais mieux que dans des coopératifs.
Clairement.
Et le matériel, bon, on l'a dit, hein, les petites voitures qui roulent c'est, sont trop trop choux. Et dans la boîte, vous allez aussi avoir des stickers qui permettent de les customiser. Il y a des enveloppes à ouvrir avec des nouvelles contraintes, avec du nouveau matériel, des nouvelles règles. Bah, j'ai trouvé ça hyper généreux comme jeu.
Yep.
Un peu régressif.
Ouais, clairement.
Et vraiment une belle proposition. Enfin, moi, j'ai kiffé ma race.
Ouais, carrément. Moi aussi, j'ai adoré. Et c'est encore un jeu de Big Moustache Game qui nous avait déjà... pour le coup, moi, c'était déjà mon coup de cœur l'année dernière. C'était Opération Zèbre, leur premier jeu. Là, on est passé chez eux un peu par hasard aussi. Aujourd'hui, on s'est arrêté. On a vu Vroom Vroom. On joue et waouh, c'est trop bien. Il y a un côté très, comme tu l'as dit, régressif. Ça fait très micro-machine. On a vraiment l'impression parce que les obstacles qu'il faut rajouter, c'est des objets du quotidien. Enfin, c'est pas dans la boîte les obstacles. Il faut prendre des objets, les poser sur la table.
Ah oui, la carte dit clairement prenez un objet dans la pièce.
C'est ça, prenez un objet dans la pièce. Donc ça fait un décor à la micro-machine en plus.
Et la cœur s'est levée pour. Il a traversé le salon pour aller prendre un truc, un roll-up.
De chez Gigamic. Il a mis le golem de Tag Team sur la table.
Et de toute façon, qui n'aime pas jouer aux petites voitures, quoi.
Bah, c'est ça. Non,
je crois que tout est dit. Hein. Voilà, c'est.
Alors, pour pas trop, je veux pas trop spoiler, mais le côté micro machine, même, on a un peu regardé nous deux trois autres trucs. Et il y a une carte contrainte qui dit, il y a, enfin, l'arrivée doit être par terre en dehors de la table. Donc, tu dois faire des jumps avec des voitures. Et tout. C'est vraiment, ça part assez loin, mais c'est ultra ultra rafraîchissant.
Ouais. Moi, il m'a fait un peu l'effet des cryptos, ce jeu. C'est-à-dire que quand on me le pitchait, j'arrivais pas à me rendre compte, quoi. Mais tu pousses, t'as la valeur, mais faut pas trop, faut quand même arriver. Et en fait, tu fais un tour et, ouais. Et ça passe.
Et c'est quand même moins compliqué que des cryptos à expliquer, mais c'est vrai que...
Le pitch est difficile à faire et comprendre les règles comme ça sans avoir de visuel, c'est pas évident alors que tu fais deux tours et c'est bon.
Ouais, clairement.
Je confirme, ça fait deux, trois fois qu'on me l'explique et moi, j'ai toujours pas bien compris, j'ai pas joué.
Ouais, on l'a dans le sac, si tu veux, on peut le sortir. Gros coup de cœur aussi de mon côté sur Vroom, ouais.
Donc, Vroom, c'est un jeu d'Antonin Bocara, c'est illustré par Amélie Guinet et c'est chez Big Moustache.
Merci Elodie. On passe maintenant à Cyrus, qui a fait une étude assez détaillée sur les monstres, a priori.
Tout à fait, tout à fait. Alors juste avant que je démarre donc sur l'encyclopédie des monstres, je voulais juste vous informer que de là où je suis placé, je n'ai pas encore vu Bruno passer depuis le début du débrief.
Mince. Voilà.
Est-ce que tu es sûr que c'était pas lui qui était déguisé en Shredder à côté là?
Ah, peut-être. C'était peut-être lui ton idole.
C'était l'idole.
Alors, l'encyclopédie des monstres. Donc, un jeu édité chez Scorpion Masqué qui sort je sais pas trop quand. C'est un jeu pour enfants. C'est un jeu coop, un jeu de mémoire et un jeu évolutif. Voilà, je vous ai fait les quatre tags à retenir. Mais écoutez, j'ai trouvé que c'était une belle revisite du Memory. Non, alors y a des memories dans les jeux pour enfants, il y en a un paquet quand même, hein, on va pas se mentir. Là pour le coup, c'est plutôt bien trouvé dans le sens où le système de jeu fait que à la fois il faut qu'on cherche des éléments pour soi. En fait, on a des personnages à retrouver et nos coéquipiers donc ont également des personnages à retrouver. Donc il faut à la fois jouer pour soi parfois, mais parfois jouer pour les autres pour que les autres puissent trouver effectivement leur personnage. Et le système qui est créé autour de ça est plutôt intelligent. Voilà, après c'est un système de, en gros, le nombre d'erreurs qu'on fait, au bout d'un certain nombre d'erreurs, on va perdre. Le jeu nous a semblé plutôt bien se renouveler. On a regardé un petit peu ce qui était prévu dans la partie évolutive, hein, donc dans les boîtes qui suivaient, les scénarios à suivre, tout ça. On voit qu'il y a des petites mécaniques qui se rajoutent, des personnages un peu différents, etc. Donc pour moi, ça m'a l'air d'être plutôt une bonne pioche. J'ai quand même un gros bémol, c'est l'édition de ce jeu. Alors c'est beau, hein, y a pas de souci, c'est beau, c'est bien fait. C'est édité comme si c'était 5 livres différents, qui sont 5 chapitres, si on veut, dans le jeu.
Une encyclopédie.
Ah,
une encyclopédie, et ouais.
Une encyclopédie des monstres.
C'est bien foutu.
Voilà. Par continent, voilà. Donc il y a 5 livres pour représenter les 5 continents. Sauf que, ben dedans, en fait, on retrouve du matos qui sert, enfin. Il y a du matériel qui est dupliqué dans chaque boîte, donc il y a du matériel qui est en 5 exemplaires, alors qu'en réalité, ben, on l'utilise qu'une fois. Et donc, par souci d'esthétisme, d'avoir une belle édition, etc., ben, y a des matériels qui se retrouvent en 5 exemplaires et qui servent à rien potentiellement. Alors évidemment, on est obligé de jouer avec ce matériel qui a été dupliqué parce que le dos a été revu, etc. Mais en fait, ça aurait pu être édité autrement, ça aurait pu être édité de façon beaucoup plus raisonnable. C'est mon bémol, c'est mon petit coup de gueule sur le jeu.
Ouais, toujours les jeux de memory, on a toujours tendance à se dire « Oh, encore un jeu de memory ». Et puis là, c'est vrai qu'on a été tous plutôt surpris sur le côté revisite, avec un intérêt. On s'est laissé prendre, en fait, on a joué à 3. On s'est laissé prendre au jeu, avoir envie de tester la suite, d'essayer de voir ce qui était rajouté. Il y a le côté un petit peu intrigant de savoir quelle petite règle supplémentaire va être rajoutée au chapitre d'après. Et c'était pas un memory chiant, c'était un memory évolutif où on apprend progressivement où se trouve tel ou tel élément et où on va progressivement, on a bien senti le côté coop, où on arrivait progressivement avec l'aide des uns des autres à réussir notre manche. Ouais. Et pas, ça c'était agréable.
Mm. Ouais. C'est pas du coop memory où juste je peux dire à l'autre, rappelle-toi le jeton il est là, c'est une vraie coopération au sens où il faut faire quelque chose qui va aider les autres, mais c'est indirect. Et c'est ça qui est effectivement qui renouvelle le genre pour le coup dans le jeu. Et ça, typiquement, bon, c'est pour les enfants par exemple 6 ans, c'est un truc qu'ils vont sûrement pas capter à la première partie. Donc on sent bien que même le premier niveau, il va sûrement leur résister au début. Ils vont comprendre que le fantôme, il faut le jouer dans les premiers parce qu'en fait, il va faire révéler des jetons que tout le monde va voir. Donc on va tout de suite avoir beaucoup d'infos.
Et avec un vrai côté d'apprentissage par l'erreur. Ouais, qui est très intéressant, je pense, ouais. sur les premières parties qu'on a fait, en tout cas.
Là où les memory classiques, en fait, quand on se trompe juste sur les deux pièces où on s'est trompé, au pire, on perd une vie. Là, non. On annule toute la progression qu'on a fait à ce niveau-là. On repart à zéro. Et oui. On perd une vie. Donc, il y a un vrai côté, il est vraiment punitif. Le jeu nous résiste vraiment.
Merci, j'allais venir sur ce point-là. Ils n'ont pas eu peur, en fait, de faire un jeu punitif pour des 6 ans et plus. Ouais. Et là, pour le coup, franchement, chapeau. Alors c'est un jeu d'Antoine Boza, Corentin Lebras et Théo Rivière, c'est illustré par Maud Chalmel. Et alors note, il y a des conseillers qui interviennent dans le jeu, ils sont mis en avant dans la notice, j'allais dire dans le fascicule avec les scénarios, ouais. Voilà.
Pas pour chaque monstre, d'Écosse. Mais pareil, voilà. certains monstres ont eu le droit à un conseiller technique qui a dû intervenir pour la création du jeu pour être relativement réaliste par rapport aux vampires ou aux loups-garous. Mmh. Bon.
Donc édité chez Scorpion Masqué à partir de 6 ans.
Merci Cyrus. Du coup, Kurtz, on va rester avec toi puisque tu veux nous parler de Animal Rescue Team. Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Animal Rescue Team, c'est un jeu qu'on avait vu passer l'année dernière à Essen, qu'on n'a pas eu l'occasion d'essayer. C'est un jeu de Matt Pandémie Leacock. Et on sent bien que c'est un jeu de Matt Leacock, effectivement, qui n'hésite pas, année après année, à revenir à ses amours de mécanique de jeu de pandémie. Là, il va falloir que sur un territoire imaginaire, on aille sauver des animaux de différentes catastrophes, aussi simples qu'un chaton perché dans un arbre à un cheval menacé par les flammes dans la cambrousse. Là où on retrouve bien Matt Leacock, si on va avoir des points d'action, des points qui vont nous permettre de faire des déplacements, de faire des actions, sauver les animaux. Alors là, le secours des animaux dépendra d'un lancer de dés qu'on va pouvoir moduler en fonction de si le pompier, non, qui est une pompière d'ailleurs, si la pompière intervient sur le secours et qu'elle est aidée par tel personnage et tel objet, ça va faciliter la capture du cheval qu'on va pouvoir ramener. Bon. Je vais pas vous mentir, je l'ai trouvé personnellement assez moyen. Je l'ai pas trouvé fantastique. Je le mets pas dans ma tier list Matt Leacock. On était 3 ou 4. Qu'est-ce que vous, Lana, Drew, quelqu'un veut en dire quelque chose?
Je pense que tu t'es un petit peu endormi pendant la partie.
C'est la digestion?
Oui. Non, c'était le matin.
On l'a perdu un petit peu. Il y avait des vraies réflexions, des vrais consensus à faire, des vraies programmations de dans quel ordre on veut le faire et vérifier aussi des conditions de si on n'a pas fait ça avant tel tour et donc ça sera à toi de jouer. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? On a frôlé la catastrophe, hein, la grosse catastrophe.
Ah oui, le jeu nous pousse vraiment dans le dos.
Ouais, hein. Il nous pousse. Et vraiment, et cette sensation-là est agréable. On a au fur et à mesure des catastrophes à résoudre qui s'accumulent. Et on peut en résoudre, suivant où elles sont placées, parce qu'on peut pas se déplacer beaucoup. Une, maximum deux, plus des choses globales, des jalons dans le jeu qui s'ajoutent. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec des contraintes de positionnement. Je suis venue en moto, donc j'ai une toute petite place. Donc, ok, je peux sauver le chaton, mais je peux te dire que le cheval, il va pas monter, hein. Donc, faut aussi gérer les véhicules. Bon, c'est pas grave, je suis pressée, je jette ce véhicule-là. Donc, on laisse en plan des équipements comme ça au milieu de la pampa. Et on se fait rattraper par quelqu'un qui vient nous driver. Moi, j'ai trouvé, au contraire, une vraie présence, un vrai tempo très fort. On est très fort poussé, et c'est ça qu'on aime dans le co-op. On a senti la difficulté du jeu. C'est ça que j'aime dans le co-op. Ce que je peux reprocher, c'est qu'il peut y avoir l'effet leader. Sur ce type de jeu, comme dans Pandemic, hein, ça a ce même défaut-là.
Quand on parle, on sent vraiment que tu as vécu ta partie. Hein.
On a vécu la partie. Alors, c'était presque même un peu long pour moi. On a joué presque une heure et demie. Et c'est trop de pression. Enfin, tu peux pas me pousser pendant une heure et demie. Il y a un moment, c'est stop, quoi. On était content d'arriver au bout. On a réussi. Et on s'en sort in extremis. Mais ça, c'est ça qui est chouette, ça.
Ouais, moi j'ai bien aimé cette gestion des véhicules pour se déplacer. C'est des choses qu'on n'a pas trop dans Pandemic. Dans Pandemic, on se déplace effectivement 1, 2, 3 cases, peut y avoir des notions de téléportation, tout ça. Mais là, d'avoir des véhicules qui ont des capacités différentes, qui viennent s'ajouter aux capacités des personnages, qui vont plus ou moins se déplacer, de se dire bah, tiens, ramène-moi là parce que je pourrais prendre la moto et traverser le terrain pour aller de l'autre côté. Et on a aussi ce niveau-là, je trouve, en plus par rapport aux personnages. Et effectivement, cette cadence infernale où au début, en fait, les cartes des animaux, elles sont sur une petite piste où il y a 8 niveaux, je crois. Et on en a 2 au départ, 2 ou 3. Et puis donc, on voit, on en a 3 sur 8. Et en fait, à chaque fois qu'un joueur joue, on en rajoute une et ça descend. Et si jamais il y a un animal qui sort au bout de la 8e, eh ben c'est out, c'est fini. Le jeu, on a perdu le jeu. Et ça, c'est une des contraintes. Il y a d'autres contraintes à côté. Et quand on voit les animaux qui bloom, bloom, bloom. Blum, ça descend, et qu'à un moment, on était arrivé à, en fait, faut qu'on la fasse un chaque tour, sinon on est cuit. Et on se dit, si on fait ça, on peut pas faire les autres missions. Et puis, alors, on a réussi par une petite astuce, mais c'est très, très chaud, et on était en initiation, quoi. Ouais. Le premier niveau,
S'ajoute à ça, évidemment, des événements qui vont nous couper les routes, qui vont, faire que nos petits refuges, on peut plus mettre les animaux dedans, il faut les stocker dans une voiture. Je vous promets, on a ouvert les vitres. Enfin, nous, on l'a vraiment vécu.
Ouais, t'as vu? Les mauvais lancers de dés, et ça j'ai trouvé ça très intelligent, les mauvais lancers de dés marquent le passage du temps. Quand on fait un lancer de dés et qu'il y a un sablier, ça fait avancer un curseur. Et ce curseur, le curseur atteint tel endroit avant qu'on ait atteint la première grosse mission, on a perdu. Avant qu'on ait atteint la deuxième grosse mission, on n'a pas fait la deuxième grosse mission avant que le marqueur arrive, on a perdu. La troisième, etc. Et à chaque fois que le marqueur va atteindre un certain niveau, ça va nous rajouter une poignée de contraintes. Une contrainte, deux contraintes, trois contraintes, quatre contraintes, qui se cumulent avec toutes celles qu'on avait avant. Ouais, non, il y a une vraie difficulté. Moi, je l'ai trouvé très moyen parce que peut-être que, trop long. Tu vois, ça, c'était peut-être un poil long par rapport à ce que j'aurais voulu. Mais c'est le seul côté négatif que j'ai trouvé. Et pourtant, j'ai fait des micro-pauses pendant le jeu. Vous voyez, c'est vraiment,
Ça aurait pu être plus court, si on avait perdu, hein.
Chaque sauvetage nous amène aussi des petits jetons bonus, donc on a des capacités supplémentaires, on peut rejouer, on peut relancer, on peut acheter des équipements qui vont nous aider. Moi, je trouve qu'il y a tous les bons éléments, vraiment tant dans le positif que dans le négatif pour les joueurs, avantages, inconvénients d'un sauvetage, et c'est bien représenté. Moi, j'ai vécu ma partie, j'avoue.
J'avais en tête que c'était une refonte d'un autre de ces jeux. Je viens de vérifier, effectivement, c'est une refonte de Thunderbird.
Oui.
Qui a pas je sais pas s'il a une édition en France.
Thunderbird, on l'a eu en français.
Ouais.
Le jeu sur les marionnettes, oui, il existe en français.
Ouais.
Oui.
Je n'ai
pas joué,
je
ne peux pas juger.
Ouais.
Alors, il doit être très, très, très fort, en effet.
Oui, en tout cas, par BGG, il dit bien que c'est une refonte.
Ouais. Notre quatrième joueur y a fait référence immédiatement.
Donc, il s'agit d'un jeu qui s'appelle Animal Rescue Team. Un jeu de Matt Leacock avec Lisa Towell. C'est illustré par Jeff Langevin et Alyssa McCarthy. C'est pas très beau. je trouve. C'est pas dans mes goûts. C'est pas dans mes goûts. Et c'est édité chez Fantasy Game.
Ok, bah merci Kurt. On passe maintenant à Caducée et à ses priorités.
Et tout à fait, je vous parle de Priorities. C'est un jeu d'ambiance, de priorisation de propositions absurdes ou de priorisation absurde de propositions. Vous verrez les choses dans le sens qui vous convient. On va voir, donc c'est un jeu coop. On joue contre le jeu, en fait. Un joueur ou une joueuse active classe sur une échelle de 1 à 5, 5 propositions sur une petite ardoise. Les propositions sont sur des cartes, selon son ordre de priorité ou de préférence. Et les autres doivent ensuite deviner le bon ordre. Donc vraiment l'ordre exact, hein, y a pas de latitude à l'erreur. On vérifie. Et chaque carte qui est bien placée est gagnée par les joueuses. Chaque carte mal placée, c'est le jeu qui la gagne. Et sur le verso des cartes, il y a une lettre en fait qui permet de reconstruire le mot « priorities ». Et si on arrive à reconstituer ce mot avant le jeu, donc avec les cartes qu'on aura gagnées, on a gagné la partie. Donc la durée de partie peut être assez aléatoire. Puisqu'on ne sait pas du tout à l'avance quelle carte on va récupérer. On ne peut pas optimiser notre jeu pour faire en sorte de récupérer absolument le S qui nous manque. On se laisse un petit peu aller. Après, comme souvent dans ce genre de jeu, le but n'est peut-être pas de faire des points ou forcément de gagner. Enfin, c'est plus le moment qu'on va passer qui va être important. Et on n'attendait pas grand-chose de ce jeu. Et on s'est plutôt retrouvé à y prendre du plaisir. Je l'ai d'ailleurs préféré aujourd'hui à Matchy Matchy, dans le genre jeu d'ambiance de connaissance de l'autre, de par les discussions en fait qu'il a pu engendrer. Donc ça, c'était intéressant, puisque c'est vrai que Matchy Matchy, au final, on est resté assez silencieux et ça ne donne pas de support à la discussion autour de thèmes. Des thèmes qui peuvent être assez incongrus, parce que moi, je vais vous donner un exemple. J'avais, par exemple, moi, à classer en tant que joueuse active, les anchois, les choux de Bruxelles, la chasse, la censure et le hip-hop. Voilà, donc j'ai dû faire mon classement et mes copains-copines ont dû essayer de deviner ce que j'avais pu classer dans quel ordre. Et donc voilà, je vous passe, il y a plein de thèmes différents. Forcément, les compositions que vous allez avoir sur la table vont être très variées parce qu'il y a un grand nombre de cartes. Voilà, j'ai trouvé que le support de discussion était plutôt intéressant dans le genre jeu d'ambiance là actuellement. Par contre, donc c'est un jeu qui n'a pas d'auteur ni d'illustrateur, illustratrice. Ce n'est pas marqué sur la boîte, ce n'est pas marqué sur BGG. Je suis retournée sur le stand, personne n'a été capable de me renseigner. C'est pas marqué sur la règle du jeu non plus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un jeu Hasbro, Clarendon Games. Et voilà, pour Priorities.
L'enquête commence.
Et donc, est-ce qu'on a le droit de dire à l'antenne qu'on a découvert que tu préfères les shows de Bruxelles au hip-hop ?
Oui, tout à fait.
Ah, ben moi, je laisserai les auditeurs nous dire qui a classé en top 1 la Danette ou un autre les Birkenstock.
Les Birkert Stock.
C'est marrant parce que du coup, donc il y a ce jeu-là. T'as dit.
J'ai parlé de Matchy Matchy, qui est le nouveau jeu de Cocktail Games.
Ok.
Qui est la refonte de Compatibility.
Exactement.
Okay, ah oui, ok.
Je vais garder le micro pour vous parler de Comic Strip. Donc Comic Strip, c'est un jeu qui est un petit peu l'héritier de Nouvelle Contrée.
C'est des comics qui
se... Non, c'est Comics Trip.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est le voyage du comics. Voilà, ça parle de BD.
Ah, j'ai eu percu.
C'est pas Strip, c'est Comics Trip, qui est le descendant spirituel de Nouvelle Contrée, mais adapté à la bande dessinée. Alors, je sais pas si vous aviez joué à Nouvelle Contrée, où l'originalité de Nouvelle Contrée, c'était de prendre un livre dans votre bibliothèque et de jouer avec. Et ben, Comics Trip adapte ce système-là avec des bandes dessinées. Donc moi, ça m'a un peu plus parlé. Alors, j'ai adoré Nouvelle Contrée, j'ai trouvé ça super original, mais j'ai pas forcément beaucoup joué. Là, Comic Strip, ça m'a un petit peu plus parlé. Donc ça, c'est la filiation. Après, les mécanismes, enfin le but du jeu est un petit peu différent quand même. Dans Comic Strip, du coup, vous allez prendre une BD, vous allez ouvrir une page de la BD au hasard, et il va y avoir un narrateur, un conteur, qui va devoir deviner ce que les autres vont... c'est coopératif, pardon, mais qui va devoir deviner ce que les autres vont lui créer. Et en fait, les autres, ils vont avoir une petite case blanche, et ils vont avoir ce qu'ils appellent des glyphes, donc des petites formes. On rejoint un peu les jeux à la Inkit, à la Imagine, etc. Ils vont avoir des petites formes, Et ils vont devoir utiliser ces petites formes dans leurs cases pour refaire une des cases de la page de la BD. En fait, on tire une carte, on a un emplacement sur la page qui nous pointe une case. Et on va devoir essayer de refaire avec ces éléments-là la mise en page d'une case en particulier. Et donc la personne va devoir deviner. Si elle y arrive, si elle arrive à deviner les cases de toutes les personnes, ben, on passe la narration à la personne suivante, on change de page. On passe aussi, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes petites glyphes, les mêmes petits éléments. Donc on passe aussi les éléments qu'on a utilisés. On garde ceux qu'on n'a pas utilisés. Ceux qu'on a utilisés, on les passe à notre voisin. Et du coup, si on utilise trop, on peut se retrouver un petit peu à avoir moins d'éléments pour la case d'après. Donc il faut gérer aussi ça, ce qui est assez intéressant. Et on fait ça 5 fois, en gros, peu importe le nombre de joueurs qu'on est, on va faire 5 pages différentes. À chaque fois qu'on n'y arrive pas, on va perdre justement, tout le monde va perdre un élément. Donc on peut se retrouver, il y a un effet un petit peu cercle vicieux. Si vraiment on n'assure pas au début, on va en perdre et ce sera plus dur et c'est un effet boule de neige un peu négatif. Mais ce qui fait qu'on doit un peu gérer le truc. Mais c'est super agréable. Et le petit truc sympa aussi, c'est que à chaque fois le narrateur, quand on réussit une des cinq phases. On a un petit carnet avec un espèce de petit texte à trous. En fait, on va rajouter des éléments, un lieu, un sentiment, etc. Et bien sûr, il y a une espèce de page cachée. Et on va révéler cette page-là et ça fera une petite histoire. Ça fera l'histoire de notre aventure, de notre trip justement qu'on a fait ensemble dans cette BD-là. Je vais peut-être vous faire un exemple parce que sur le stand, c'était plutôt des BD. Voilà, c'est tout public. Il y avait les légendaires. Enfin, il y avait une ou deux BD en exemple, des trucs très très colorés, très très jeunesse. Du coup, moi, je me suis dit bon, on pourrait essayer de jouer avec autre chose. Et sur ma tablette, j'ai Isneo avec des BD, etc. Et je suis parti sur La Route de Larsenet, donc l'adaptation du roman de McCarthy, hein, un peu voilà, une errance post-apocalyptique.
Dans le léger, quoi.
Très 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 loin dans des légendaires, quoi.
Et du coup, je peux vous lire le résumé de notre trip au travers de La Route, si vous voulez. Vous verrez, l'effet est assez marrant parce que c'est très représentatif de ce qu'on a vécu, mais avec la manière dont c'est écrit, comme c'est assez, un jeu assez positif, ça donne quelque chose d'assez drôle. Le guide du Globetrotter. Amateur de voyages originaux, vous tomberez sous le charme du château d'eau. Exotique ou intrigant selon votre tempérament, vous vivrez une expérience d'intense désespoir. Guidé par une autochtone rencontrée en plein milieu d'une catastrophe climatique, et avec un peu de chance, peut-être arriverez-vous à observer des ours. Ébloui par la richesse culturelle, vous ne cesserez de vous répéter « Allons-nous-en ». De quoi vous laisser des souvenirs jusqu'à la fin de vos jours. Voilà, donc c'était la version un peu dark, un peu noire de Comic Strip. Mais très bonne expérience. Ayant une collection de BD assez phénoménale à la maison, je pense que je peux renouveler l'expérience dans plein de thématiques et de genres différents. Donc voilà.
Tu avais joué à Nouvelle Contrée ?
J'avais joué à Nouvelle Contrée.
Et donc pour toi ?
Et bien pour moi, Nouvelle Contrée, j'ai fait une ou deux parties, mais j'ai trouvé ça super original. Mais ça, enfin, ayant beaucoup moins la culture, lecture de romans, voilà, j'ai des livres, hein, mais c'est, si tu veux, la BD là, ça m'a parlé. Le côté vraiment faire deviner avec des formes, enfin, j'aime bien les jeux type Imagine, Inkit, etc. Donc il y a ce côté à la fois, tu rentres dans l'ouvrage, tu t'en sers pour faire des choses, et en même temps, tu fais deviner aux autres. Pour être tout à fait honnête, je me souviens plus exactement de toutes les subtilités de Nouvelle Contrée. J'avais trouvé ça très cool et original, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je me dis, ça peut être très très cool. Elodie, toi, tu y avais joué aussi à Vichy, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, j'avais joué à Vichy en septembre. Et autant Nouvelle Contrée m'avait fait un espèce d'effet bœuf waouh de malade, autant là, je l'ai trouvé moins original sur ça, sur le fait de devoir refaire des choses avec des bidules, enfin faire deviner. En revanche, je pense qu'il est beaucoup plus accessible parce que Nouvelle Contrée, ouais. On a quand même toute la partie grammaire, langage et tout,
c'est ça, ouais.
qui en fait que c'est pas un jeu avec qui tu vas pouvoir jouer, tu vas pas pouvoir y jouer avec n'importe qui à ce jeu-là parce que t'as quand même une sacrée barrière culturelle. Après, moi, je suis plus lectrice de romans.
Que
lectrice de BD, donc
ma
collection
pense,
de BD est très, je pense que on peut inverser nos bibliothèques, mais je trouve que c'est très très chouette d'essayer, en tout cas chez cet éditeur,
oui.
De mélanger comme ça les médias. C'est encore une fois très généreux, Alors, ils ont appris de leurs erreurs sur Nouvelle Contrée, parce que Nouvelle Contrée, c'est leur premier jeu. Et il y en avait beaucoup, beaucoup trop. Il y avait trop de variantes, il y avait trop de trucs, il y avait trop de matériel. Là, ils ont vraiment réduit. La règle est plus simple. Et je pense qu'ils en font un jeu qui est beaucoup plus accessible et qui a encore une belle proposition, en effet.
Ouais, totalement. Du coup, Comic Strip, c'est un jeu de Germain Wiesenstark, qui était déjà l'auteur du coup de Nouvelle Contrée, mais qui est accompagné de Christophe cette fois-ci. Illustré par Stacy Thomas, c'est édité par Olibrius. On passe maintenant à Peter qui veut nous parler d'une mêlée épique.
Épique mêlée, exactement. un jeu que je n'ai pas trouvé du tout épique. Et puis pour le côté mêlée baston, bon, on peut repasser aussi, hein, parce que j'ai pas trouvé que ces sensations étaient vraiment présentes dans ce jeu. Qui est un jeu de cartes, purement de cartes avec des petits jetons pour les points. Hein. C'est un jeu où on doit gagner le plus de points possible à la fin des 6 manches, je crois. Et on va jouer avec des cartes qui représentent des personnages, chaque personnage ayant un pouvoir, mais ayant aussi une valeur de carte. Oui, et on a joué à 4 à ce jeu, avec Drew, Caducé, Elodie, c'est ça? Non?
Il était à fond dans le jeu, il a pas vu.
Je me souviens plus. Avec Lana et Elodie.
Bah, on s'en fout à qui t'as joué et combien vous avez joué, vas-y.
Bon, on a joué à 4 avec Drew, Lana et Elodie. Voilà. Donc on a 6 cartes en main, donc on en choisit 2 face cachée à chaque début de manche. Et sur ces, une fois que chaque personne a choisi ses 2 cartes face cachée, on en révèle une des 2. Et ensuite, joueur après joueur, on va jouer une de ces 2 cartes, donc soit celle qui est face cachée, soit celle qui était face visible. On va la poser au milieu, donc ça c'est l'effet mêlée. Et c'est le joueur qui vient de poser sa carte qui choisit quel est le joueur suivant à poser sa carte. Donc c'est pas forcément dans l'ordre du tour. Donc là c'est une petite originalité aussi. Et le premier joueur qui joue c'est celui qui a joué en dernier le tour précédent. Donc les cartes ont des valeurs, celui qui a mis la plus forte valeur de carte va remporter le jeton or, celui qui a la seconde meilleure carte va remporter un jeton argent qui rapporte moins de points, et chaque carte a un pouvoir particulier. Donc les pouvoirs sont assez divers, mais il y en a certains qui sont assez perturbants, puisqu'il y a un personnage par exemple qui va inverser l'ordre dans lequel les jetons vont être distribués. Donc celui qui a mis la plus petite va gagner le jeton or, celui qui a mis la deuxième plus petite va gagner le jeton argent. Il y a un autre pouvoir où en cas d'égalité normalement tout le monde gagne le même jeton. Si le mage de lumière était parmi ces égalités, c'est lui qui remporte et uniquement lui, ou les personnes qui ont mis le mage de lumière qui remportent le jeton correspondant. Voilà, donc il y a plein de petits pouvoirs comme ça qui peuvent faire changer le cours de la partie. L'intérêt, il est vraiment dans le fait d'avoir une carte face cachée, une carte face visible au début de son tour, et de ne pas savoir quelle carte les autres joueurs ont mise, mais quelle carte ils vont jouer surtout. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez plaisant, mais je suis pas sûr que au bout de plusieurs parties, l'intérêt soit toujours présent. Ça dépend aussi beaucoup de la main de cartes qu'on a au départ, hein, qu'on choisit pas, il n'y a pas de draft, et en fonction des personnages qu'on a piochés, bah, ça va être plus ou moins intéressant au cours de la partie. Si on a plusieurs fois le même personnage, bon, bah, on a moins de questions à se poser sur les 2 cartes qu'on va devoir choisir au début de son tour.
Ah oui, le fait dans ce genre de jeu, souvent, on a tous le même deck de cartes, mais là, pas du tout, parce que toutes les cartes sont mélangées, elles sont je sais pas combien de fois dans le paquet de cartes initial.
6 par personnage.
6 par personnage. Et on peut se retrouver avec éventuellement 6 fois la même occurrence de cartes, tout n'est pas distribué, donc...
Oui, donc il y a un déséquilibre dès le départ.
Ouais, t'as un déséquilibre du départ, mais a priori, je pense que sur les points, tu peux. Et ce que je trouve vraiment intéressant, et ce qui je trouve amène du sel au jeu, c'est le fait de choisir qui va jouer après toi, parce que ça peut créer des espèces d'alliances éphémères. Il y en a eu. Il y a eu des le couple
on
de la.
On ne pointe pas du doigt, Madame Elodie. Ne pointe pas du doigt.
Comment ça, ça joue en couple? C'est interdit.
Ça joue en couple.
C'est interdit.
Un
ça.
Peu. Il y a eu des comme ça, des alliances couplesques. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça amène un peu de finesse sur un jeu qu'on a déjà un peu vu. Enfin, il y a rien de très original dans ce jeu-là. Mais ce côté de qui joue après moi, qui j'envoie jouer, est plutôt intéressant et pour moi est vraiment le point fort du jeu.
Alors la parole est à la défense.
Ouais, je suis d'accord avec toi sur sur ce côté-là de qui va jouer après et en fonction des cartes que l'on voit et donc de ce qu'on peut imaginer qui peut se passer, qui j'ai intérêt de faire jouer. Donc c'est un choix intéressant. Sur le choix de nos cartes, en effet, on fait en fonction de ce qu'on a. Mais il y a un petit côté souvenir aussi parce que la carte qui n'est pas choisie revient dans sa main. Et si elle était visible, on sait que tel joueur a telle carte. Donc, s'il y en a des cartes qui vont bien avec, parce qu'il y a des cartes qui s'appairent plutôt bien, on peut se dire, si je lui montre que moi aussi j'en ai une, il y a peut-être moyen que, en effet, il y ait une alliance, même si elle reste temporaire.
C'est pas faute d'avoir fait un appel à la tortue. Personne n'a mis de tortue.
Personne n'en avait.
Ah oui, mais...
Mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent se passer. Je suis pas aussi négative que toi. Moi, il m'a fait son petit effet. Peut-être pas de là à y revenir parce qu'il y a ce côté où il y a de la bataille. C'est quand même, ça peut être contre toi. Les joueurs peuvent s'allier contre toi. Moi, c'est quelque chose qui me dérange et je l'ai ressenti. C'est un sentiment qui se déclenche dans ce jeu-là.
Donc, c'était Epic Melee, un jeu de Florian Fay, illustré par David Sidbon et édité chez Sorry, We Are French.
Eh ben, merci Peter. Pour finir, Cyrus voulait nous parler d'un nouveau Carcassonne ? Pas vraiment.
Ils ont tué Carcassonne.
Ils ont tué Carcassonne.
On est arrivé chez Ravensburger et là, j'ai vu Carcassonne Labyrinthe. J'ai fait...
C'était pas le labyrinthe Carcassonne.
Non, c'est Carcassonne Labyrinthe. Ah ouais. Non, c'est Klaus qui a gagné, apparemment. Ils auraient pu l'appeler Labyrinthe Carcassonne. C'était kiff-kiff, mais bon, comme je dis, c'est Klaus qui a gagné. Donc, c'est un jeu de Klaus Jürgen Vrede et de Max J. Cobert, donc les auteurs de, respectivement de Carcassonne et de Labyrinthe. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur la boîte. Okay, moi, je pense que c'est un développement interne.
Labyrinthe, le truc où on pousse des. Et ce labyrinthe-là, parce qu'il y a d'autres labyrinthes.
Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est celui où on pousse des pièces pour. On fait sortir une pièce de labyrinthe, ça fait un peu un genre de taquin là, et on va chercher les trucs. Donc c'est les règles de labyrinthe, sauf qu'on construit une petite ville à côté qui donc est Carcassonne. Mais le gros mais, c'est que chacun construit sa petite ville de son côté, et donc c'est un putain de PPP qu'ils ont fait à partir de labyrinthe. Voilà, ils ont trouvé un système de prise qui est dans le labyrinthe, un système de pause qui est celui de Carcassonne, sauf qu'ils l'ont dégueulassé. Et je trouve ça dégueulasse. Voilà. C'était pas intéressant. Ça fait pas du tout un bon Carcassonne. Je sais pas s'ils arriveront à faire une extension d'ailleurs, parce qu'en général, tous les trucs Carcassonne, ça fait aussi une extension. Donc par exemple, le Carcassonne Coop, c'est aussi une extension. Voilà, c'est tout.
Ok, bon bah.
T'as aimé ton Carcassonne, quoi.
Quoi ? Pardon ?
T'as aimé ton Carcassonne ?
Je garde mon Carcassonne. Voilà.
Est-ce que tu gardes ton labyrinthe aussi ?
Non, le labyrinthe, je trouve pas ça bien. Ça fait peut-être un meilleur labyrinthe. Ah. Je lui concéderai ça, mais je suis
ça
même pas sûr.
Ça gâche Carcassonne, mais ça améliore labyrinthe. Même pas.
Non, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord.
Non. Ça dénature les deux. Ouais. Ça dénature un petit peu moins labyrinthe que Carcassonne, mais non.
Ouais, parce que c'est moins bon qu'un labyrinthe, parce qu'à mon souvenir, ça fait longtemps. Mais pour moi, les objets récupérés étaient sur des tuiles mouvantes. Alors que là, dans celui-là, les objets récupérés sont des tuiles fixes.
Alors non, pas que. Il y en a, je crois, mais peut-être même pas. J'ai retrouvé pourquoi je trouvais que c'était aussi un moins bon labyrinthe. Parce qu'en fait, je trouve que dans labyrinthe, au moins, quand tu peux pas aller où tu veux, tu fais un truc pour faire chier les autres. Voilà. Et là, quand tu peux pas aller où tu veux, que tu sais que de toute façon tu peux pas aller où tu veux, tu vas chercher une tuile qui peut-être t'arrange quand même un petit peu dans ton paysage. Et du coup, ça enlève en plus tout le côté un petit peu fourbasse de labyrinthe. Bon, pour peu qu'il y en ait. Hein.
Bon, vivement Catan, les aventures du rail.
Et là, maintenant, les gens se mettent à imaginer tout et n'importe quoi. Ils ont réussi à faire ça, donc tout est possible.
Mais surtout je comprends ces deux marques importantes, mais du coup, le nom est nul aussi, tu vois. Genre, je colle juste les deux noms de jeu l'un après l'autre. Enfin, bref.
Mais bon, on peut se consoler parce qu'ils nous ont montré un labyrinthe Chronicles. Le Legacy de Labyrinthe. Pauvre crème, mais Labyrinthe Chronicle, il devait y avoir un KS, mais la boîte est énorme, chaque tuile est immense, il y a des rambardes en, en imprimé en 3D. Enfin, pour l'instant,
c'est quoi, c'est un labyrinthe Legacy, un truc comme
c'est
ça.
C'est un Legacy, okay, avec des tuiles qui font 3 cm de haut parce qu'elles sont chargées. En fait, au lieu de dessiner le chemin que tu puisses pas faire, bah, ils ont mis des rambardes pour créer des ouvertures.
Il y a les deux, monsieur. Parce qu'en fait, tu peux enlever les rambardes à un moment. Et du coup, ça fait des chemins. Et oui, monsieur. en réalité, c'est pas un labyrinthe Warhammer. Parce que, tu sais, c'est un univers un peu...
Il y a du gobelin.
Bon, bah, n'allez pas jouer à Carcassonne Labyrinthe, du coup. Bon, on aurait potentiellement plein d'autres choses à vous dire ou d'autres jeux dont on aimerait parler, mais on est un peu pris par le temps parce que, comme l'a dit Cyrus, on a un peu commencé en retard. Et comme on l'a dit aussi ce soir, c'est la cérémonie de l'Asdor. Donc, on va ranger, on va, pour ceux qui vont, on va doucement se diriger vers la cérémonie. Comme d'habitude, avant de nous quitter, on aimerait remercier nos donateurs et donatrices. Pour finir, chères auditrices, chers auditeurs, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans le billet de l'émission. Partagez ce débrief. Et si vous êtes à Cannes, venez nous voir, venez nous rencontrer sur le stand L506 à la Rotonde, en haut. Il fait beau, il y a de la lumière, c'est plutôt agréable.
Il y a des couchers de soleil absolument incroyables. Ouais.
Ça y est, le soleil est couché d'ailleurs.
Il y a Diddle pas loin. Et Diddle, peut-être que c'est Bruno, on le rappelle, on espère. Et il y a des Tortues Ninja.
Tout à fait. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy avec un i-jeu avec un x.fr.
Rouge le X.
Le X en toujours, rouge, s'il vous plaît. Proxy avec un i et jeu avec un X. Et on se retrouve demain pour le débrief de la troisième journée de ce Festival international des Jeux de Cannes 2026. Et d'ici là,
jouez bien!
On a perdu Caducé.
Caducé est en train d'imaginer Bruno Feiduti dans Diddle.
Roux est en train de pleurer. Tendez-lui un...
Ah, on perd maintenant Elodie. Ah, il Gert. Bon, ok. Allez.
Attendez.
On revient dans quelques instants.
Diddle revient. Mais oui, c'était Bruno Feiduti.